Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page. Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Chaque semaine, nous avons rendez-vous pour 30 minutes de partage. Je chronique un ouvrage qui m'aura offert le grand frisson, bande dessinée, album jeunesse ou roman, qu'importe. J'interviewe les auteurs quand c'est possible et puis, et tout est là dans Rock and Page, je vous propose une playlist par ouvrage évoqué, histoire de vous restituer en toute subjectivité ô combien assumée les émotions de lecture. Quel titre vais-je choisir pour vous permettre d'approcher une écriture? Quel autre titre je choisirai pour vous dire le rythme d'une narration ou un personnage? Je ne vous fais pas un dessin, vous m'avez comprise. Au sommaire de ce numéro, Jour brûlant à Key West, le dernier roman de Brigitte Carnel, paru chez Flammarion en ce début d'année, ou comment vivre un fabuleux voyage dans le temps et se retrouver à Key West, États-Unis, sous une chaleur écrasante entre, tenez-vous bien, Tennessee Williams, Frank Merlo, son amant, Carson McCullers, rien que ça, et François Sagan. Mais avant de vous en dire plus, et avant surtout, quelle fierté de recevoir Brigitte Carnel en interview, laissez-moi vous dire l'ambiance très particulière de ce roman incandescent. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise,
oh, yeah.
Promise to me
you'll dream.
Dream a little dream of me. C'était, vous l'aurez reconnu, Ella Fitzgerald accompagnée par Louis Armstrong aujourd'hui dans Rock and Page pour illustrer le dernier et très réussi roman de Brigitte Carnel qui s'intitule Jour brûlant à Key West et qui est sorti en ce début d'année chez Flammarion. Brigitte Carnel qui, pour vous et moi, d'ici une poignée de minutes, répondra à toutes mes questions. Ella Fitzgerald et Louis Armstrong pour l'élégance de l'époque et l'époque, pour illustrer ces deux éléments-là de Jour brûlant à Key West de Brigitte Carnel. Brigitte Carnel, vous la connaissez sûrement déjà parce que Jour brûlant à Key West est quelque chose comme son 14e roman, et là je ne parle que de roman et pas des autres publications. Vous la connaissez peut-être aussi car elle a pendant longtemps été journaliste, réalisatrice et production d'émissions littéraires sur France Inter. Et là c'est le résumé du résumé de son parcours professionnel et artistique, j'ai envie de vous dire. Ceci étant posé, et avant de la recevoir, laissez-moi vous donner quelques indications pour qu'à votre tour vous vous procuriez cette pépite qu'est Jour brûlant à Key West, son tout dernier roman. À avril 1955, Canicule, mais alors un truc à faire décliner un cactus à Key West, États-Unis. Tennessee Williams, l'immense écrivain que l'on ne présente plus, vit avec Frank Merlo, son amant, et Carson McCullers, qu'ils hébergent et soignent, parce qu'elle est gravement malade, depuis la mort de son mari. À New York, Sagan est reçue comme une reine pour Bonjour Tristesse, et dans une interview, elle dit tout l'amour et toute l'admiration que lui inspirent les livres de Tennessee Williams et Carson McCullers. Sagan a alors 19 ans. Tennessee Williams peut se permettre cela, intrigué à l'extrême par la jeune française, il lui fait parvenir un télégramme l'invitant à venir séjourner chez eux. Ni une ni deux, Sagan et sa sœur, et puis un ami à elle que nous ne verrons pas dans le roman, débarquent à Key West et là, elle va mettre une pagaille latente dans le trio Williams-Merlot-McCullers. Au détail près que cette histoire est racontée du point de vue de Frank Merlot à la fin de sa vie, au cours de longs entretiens avec une certaine B, tiens, chargée d'écrire une fiction à partir de du récit de Merlot. Au cœur de la structure des échanges de lettres entre B, l'écrivain, et son éditeur, un certain G, pour se donner des nouvelles des avancées du projet. Le labyrinthe se referme, drainant dans ses allées et dans le roman une multitude de questions fascinantes et qui font tout écho les unes aux autres autour de l'écriture, de cette époque, de François Sagan bien sûr et de sa personnalité, de ce qu'est la mémoire, de ce qu'est la fiction et de ce qu'est la vérité ou une vérité, puisque la vérité n'existe que très pauvrement et très relativement. Et ça draine aussi des questions et une problématique autour de la jalousie, de la séduction. Une fois encore dans l'œuvre de Carnel, une histoire de triangle amoureux se bâtit sous nos yeux. C'est ludique et foisonnant, c'est languissant et fascinant. En réalité, c'est un roman comme un aimant. Nous sommes suspendus aux lèvres de Merlot, nous approchons au plus près ces êtres qui furent des monstres, qui demeurent des légendes et qui fument la vie sans filtre, tous autant qu'ils sont, qui possèdent des épidermes épais comme du papier à cigarette, c'est dire, et qui transcendent, jouent absolument tout ce qui leur arrive, tout à fait fascinant. Et d'ailleurs, ce triangle, cette histoire de jalousie, de séduction tous azimuts, moi, je vous la dirais bien comme ça en musique, juste avant de recevoir Brigitte Carnel.
Presque tous les soirs, et je trouve ça bizarre. Et elle me dit que t'as le cafard, tu verrais la vie d'un œil noir. Qu'est-ce qu'elle veut faire croire? Elle me dit qu'elle le sait, tu lui aurais pas. Tu viens dans mes bras,
Ça, c'était la jalousie dite avec tout le génie d'Erita Mitsuko aujourd'hui dans Rock and Page, parce qu'il est aussi question de jalousie dans le dernier roman de Brigitte Carnel, Jour brûlant à Key West, sorti il y a peu chez Flammarion. Jalousie et séduction autour de François Sagan, déboulant dans le trio formé par Tennessee Williams, Carson McCullers et Frank Merlot. Mais pour nous en parler de ce très réussi roman foisonnant et incandescent, je vous propose de recevoir tout de suite, maintenant, là, tout de suite, son auteur, Brigitte Carnel. Brigitte Carnel, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Bonjour. Alors, merci surtout pour ce roman incroyable que vous venez de nous offrir. Dites-nous un peu, s'il vous plaît, comment il est né, ce roman. Est-ce une sorte d'hommage à François Sagan, qui est le fondement même de votre projet littéraire ?
Alors effectivement, Jour brûlant à Key West, c'est un livre dont j'avais envie de prendre l'histoire en main depuis très très longtemps. Ça faisait quelques années, effectivement, j'avais envie de l'écrire et ayant rencontré François Sagan il y a bien longtemps maintenant, dans les années 85-86, et ayant parlé avec elle un tout petit peu de ce sujet, c'est-à-dire de la rencontre d'elle-même, François Sagan, avec Tennessee Williams et Carson McCullers en 1955 à Key West, l'île de Key West, les Keys comme on dit, il y a aussi Key Largo, ce sont des îles qui sont situées à la pointe de la Floride, qui sont très chaudes, qui, oui, au printemps, en plein mois d'avril, peuvent être atteintes par la canicule, ce qui se passe dans le livre. Ouais. Et effectivement, alors, parlant d'hommage à François Sagan, c'est peut-être beaucoup, parce que je parle des autres écrivains bien également, sûr. Mais en tout cas, il est certain que oui, j'avais envie de rendre à François Sagan ce qui lui appartient, c'est-à-dire tout ce qui a pu se passer à l'époque donc de 55, quand elle a rencontré ses personnages après une tournée faite avec son éditeur pour la sortie de Bonjour Tristesse aux États-Unis, puisque c'est après Bonjour Tristesse, après l'apparition de Bonjour Tristesse, qu'elle est partie à New York faire une série de dédicaces et de rencontres.
Tout à fait. Alors parlez-nous-en un petit peu de cette rencontre que vous avez rencontré pour de vrai et qui est ici un personnage. Moi, je l'ai trouvé incroyable, aussi solaire que sombre, aussi fragile que forte, dégageant une sorte de charme dont aucun membre en présence ne pourra personne ne pourra lui échapper à ce charme-là. Comment vous expliquez ce pouvoir qu'elle avait et puis de quoi avez-vous eu peur dans cette transformation entre votre rencontre et d'en faire un personnage finalement ?
Ben, c'est quand même un roman, c'est-à-dire que j'avais des éléments qui sont vrais concernant François Sagan, il suffit de lire son livre avec mon meilleur souvenir, j'avais d'autres éléments qui étaient vrais, en tout cas qui parlaient de ce séjour à Key West par la plume de Tennessee Williams dans un recueil de textes courts paru chez Baker Street, que j'ai bien eu du mal d'ailleurs à trouver, et donc à partir de ces éléments, mais il fallait relire toute l'œuvre de Sagan, toute l'œuvre de Tennessee Williams, toute l'œuvre également de Carson McCullers, qui est une écrivaine très très connue à l'époque en 55, qui a écrit Le cœur est un chasseur solitaire. Et à partir donc de ces éléments, il me suffisait plus qu'à inventer l'histoire, ou en tout cas à dresser les différentes actions, à imaginer quelle était la couleur du ciel ce jour-là, c'est pas très compliqué à Key West, de partir dans les champs de coraux, de retravailler sur l'histoire des iguanes, je parle des animaux en Floride à l'époque, et de faire une espèce de biopic, comme on dit, de ce qui avait pu se passer dans la tête de François Sagan, dans celle de Tennessee Williams, dans celle de Carson McCullers, sachant que j'avais interrogé François Sagan donc en 86, je crois, à propos de ce séjour, qu'elle restait très évasive, et qu'elle m'avait dit cette phrase, vous savez Brigitte, les choses qu'on met dans un livre, donc là elle parlait avec mon meilleur souvenir, où elle parle de ce séjour, on met ça, et puis quelquefois il s'est passé d'autres choses, et elle insistait beaucoup en disant, Frank Merlot, donc le narrateur du livre, compagnon de Tennessee Williams, acteur raté, qui a tourné un peu avec Humphrey Bogart quand même, elle disait Frank Merlot était l'homme le plus charmant que j'ai jamais rencontré. Donc quand on entend ça, qu'ensuite on revient, l'auteur que je suis revient plusieurs fois sur le sujet et voit que effectivement on n'y arrive pas, bah vous cherchez, vous faites une petite enquête en lisant dans l'œuvre, dans les différents les différentes publications qui peuvent exister sur François Sagan, et on trouve en fait dans l'œuvre de Tennessee Williams, de Carson McCullers et de Sagan, plein d'éléments qui montrent qu'effectivement, c'était dans le trouble que se passait, on va dire, toute leur écriture, en tout cas toute la naissance de leur écriture, et également tout le déroulé des différentes actions qui campent. Donc après, effectivement, c'est le travail du romancier, mais il faut partir sur des faits,
tout à fait.
Des faits réels, ce que j'ai fait, sinon ça n'a pas de sens qu'on invente alors, n'importe quoi.
Mais alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de nous dire, c'est que j'entends, j'écoute votre enquête, etc. Donc là, on rejongle avec le reste de votre œuvre, puisqu'on est presque chez Agatha Christie.
Tout à fait, mais, ouais, Agatha Christie. Ouais.
Mais alors, pour le coup, pourquoi avoir choisi de faire raconter par Merlot ?
Alors, il n'y avait pas, 36 solutions. Soit je me permettais, j'aurais trouvé ça un peu présomptueux, prétentieux, arrogant, enfin tout. Soit je prenais la voix de Sagan, soit je prenais la voix de Carson McCullers, soit je prenais la voix de Tennessee Williams. Et franchement, je ne me voyais pas en tant qu'auteur me mettre à la hauteur de ces monstres de la littérature, de la légende également. Donc il n'y avait qu'une solution. Soit j'écrivais à la troisième personne, mais je n'entrais pas dans la tête des personnages. Soit j'écrivais dans la tête en étant dans la tête de Franck Merlot, et je pouvais me permettre ce que je voulais. Vous voyez, je l'avais fait avec Agatha Christie, le chapitre disparu, le livre précédent donc, qui parlait de la disparition d'Agatha Christie pendant 10 jours en 1926. Là, Agatha Christie, j'avais étudié tout son langage. Donc en ayant tout son langage dans la tête, et comme c'était le chapitre disparu de son autobiographie, je pouvais me permettre d'être au jeu. Là, c'était impossible. En tout cas, il y a peut-être des auteurs qui auraient fait, mais moi, je me sentais absolument,
illégitime.
Voilà, c'est exactement le mot, totalement illégitime pour prendre la plume de l'un ou de l'autre.
Et puis il y a ce jeu, votre roman est extrêmement ludique encore une fois, il draine énormément de questions, on ne pourra pas tout aborder, mais il y a ce jeu dans la construction, ces échanges épistolaires entre l'écrivain et son éditeur, écrivain qui en plus signe B, tiens, et éditeur qui signe, surtout dont l'adresse est celle historique des éditions Flammarion. Qu'est-ce qui vous a permis, cette construction, elle vous a permis, ces lettres-là, elles vous ont permis quoi à vous ?
Ça donnait du souffle au livre aussi. C'est-à-dire que moi, d'abord, j'aime bien quand on écrit, en tout cas moi, quand j'écris, j'aime bien trouver de nouvelles approches. Donc j'ai écrit de façon linéaire, avec un milieu, un début, une fin, la troisième personne. J'ai écrit avec au jeu, première, deuxième, troisième partie, en étant totalement linéaire également. Là, j'avais vraiment envie de donner du souffle au livre et d'essayer de nouvelles choses. Je trouve que en ce qui me concerne, si je ne prends pas un risque chaque fois que j'écris, ça me tient moins, quoi. J'avance moins bien. J'aime bien le côté on parle à un deuxième niveau, un premier niveau, un troisième niveau, on revient au deuxième, tout en restant léger et fluide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit des livres en kikinant. J'espère que celui-là n'est pas un livre ennuyeux. Je ne voulais certainement pas que ça ressemble à une thèse d'université. Et effectivement, j'avais envie que ça soit vivant, surtout. Et pour que ça soit vivant, il faut, pour moi, il faut donner du rebond et ne pas rester dans quelque chose d'uniforme. Donc en fait, le courrier de B, effectivement, donc la biographe qui vient recueillir les confidences de Franck Merlot, qui a vécu ces 3 semaines avec Françoise Sagan, donc je le répète, en 1955, donc Tennessee Williams et Carson McCullers, il est évident que les propos de Franck Merlot, ils ne pouvaient pas tomber comme ça. Mmh. Il fallait bien qu'on lui pose des questions, ou alors il écrivait un journal intime, j'aurais pu faire ça aussi, mais c'est le journal qui serait venu. Il me semblait que là, le meilleur moyen, c'était de faire intervenir une biographe pour parler de l'écriture aussi, pour savoir ce que c'est que d'écrire à la place de quelqu'un d'autre, puisque dans le livre, moi, je parle à la place de Franck Merlot. Donc B, qui effectivement est mon double, mais qui est plus âgé que moi, puisque l'action se passe en 1963, et qu'en 1963, j'étais vraiment un bébé. Hein. Oui. Donc j'ai repris tout ce que j'ai vécu avec Françoise Sagan en 85-86, en tout cas une bonne partie, et je l'ai réinjecté dans le livre, mais j'ai à l'époque, pas le même âge, on est en 1963. Voilà pourquoi j'ai utilisé B, d'abord parce que j'avais envie de parler un petit peu de ma rencontre avec Françoise Sagan, enfin, de l'aborder en tout cas, et puis j'avais envie également de rentrer dans la tête de Merlot, quoi. Et puis, quoi de mieux aussi pour un auteur que de faire une espèce de mise en abîme en se mettant lui-même dans la peau d'un personnage, en partant dans le temps. C'est comme si je m'étais mise, j'avais pris exactement ma personnalité, que je m'étais mise répondre à Louis XIV ou à parler à Louis XIV et à l'interroger. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et l'éditeur, effectivement, mon éditeur s'appelle Guillaume, et c'est âgé, il écrit âgé, qui lui donne des conseils. Versailles. Et j'ai évidemment, il est encore plus jeune que moi, le fameux Guillaume Robert, donc qui est éditeur chez Flammarion. Donc l'adresse de Flammarion ne correspondait plus. Donc il fallait bien que je donne l'ancienne adresse historique de Flammarion. Donc ça, ça m'a permis de faire une sorte de Rubik's Cube, en tout cas j'ai essayé pour écrire ce roman.
Tout à fait. Et puis, alors en plus, vous faites perdre la mémoire sur la fin de l'entretien, ce qui rajoute à l'attention à Merlot. Évidemment, on trouve en mise en abîme et en écho des questions qui se répondent, telles que qu'est-ce que c'est la fiction, qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est le récit. Et puis, encore une fois, dans votre œuvre, on trouve cette histoire de triangle amoureux.
Oui, tout à fait. Alors ça, j'aime bien dans les différents... C'est vrai, je m'en suis rendu compte après en me disant, mais c'est marrant, parce que dans presque tous mes livres, il y a une histoire de triangle amoureux. Pourquoi ? Et en fait, tout simplement, parce que je pense que depuis toujours, j'ai envie de parler du trouble. C'est-à-dire quand on vit avec quelqu'un, comme Tennessee Williams et Frank Merlot, et qu'une autre personne arrive et tout à fait charmante, qu'est-ce qui se passe ? Surtout si c'est la fraîcheur incarnée, que vous n'allez pas très bien, et comment ça peut faire éclater ou non le couple. Donc là, j'ai eu envie de parler ça, de la fraîcheur, de quelque chose qui peut arriver à un moment où un couple commence un petit peu, on va dire, à marcher à trois pattes, et comment ce lien, cette troisième personne qui va arriver, va ou non faire exploser le couple. Alors en ce qui concerne, on l'a vu, Tennessee Williams et Frank Merlot, voilà, c'est un couple qui a explosé, mais un amour qui reste en même temps éternel, en tout cas pour Merlot.
Tout à fait.
Pour Agatha Christie, le chapitre disparu, le livre précédent, effectivement, c'était encore, non pas un triangle amoureux, mais une explosion de couple, puisque oui. C'était Agatha Christie, et c'est un fait vrai, avéré, était complètement, on va dire, jalouse, malheureuse, après que son mari lui ait dit qu'il allait divorcer pour épouser sa secrétaire. Dans 10 mois, oui, encore une fois, c'était une histoire de triangle amoureux. Je crois que c'est quelque chose qui m'interloque, quoi. C'est-à-dire que souvent, on le voit dans la vie, on voit des gens qui sont en couple, tout à coup, ils regardent quelqu'un d'autre, si ce n'est vous-même, et vous sentez qu'il y a un trouble. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce trouble ? Aujourd'hui, la vie est longue, hein, plus longue que pour nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et sur une relation de 20 ans de couple, 30 ans de couple, 10 ans de couple, c'est pour moi impossible de ne pas avoir à un moment un trouble pour quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce trouble ? Mmh. Qu'est-ce qu'on fait de ça ?
Très bien. Brigitte Carnel, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui dans Rock and Page. Vous ne coupez pas à ma dernière question. Quel titre de musique avez-vous choisi pour évoquer ce roman ?
Alors, je voulais vous parler, je suis pas une fan absolue de Johnny Hallyday, mais en tout cas, j'aime bien, et surtout, je suis très très sensible à sa chanson « On a tous quelque chose en nous » de Tennessee, où il parle effectivement de Tennessee Williams.
Très bien, merci, merci infiniment.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, rêvons-nous avec ces mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini, y a peu d'amour avec tellement d'envie, oh si peu d'amour avec tellement de bruit, oui quelque chose en nous de Tennessee.
Voilà, c'était Johnny Hallyday aujourd'hui dans Rock and Page, choisi par Brigitte Kernel elle-même pour évoquer son tout dernier roman, Jour brûlant à Key West, paru chez Flammarion. Johnny pour dire Tennessee, Johnny pour le clin d'œil, car dans le roman, on trouve tout de même une phrase qui en substance dit à peu près cela. On a tous en nous quelque chose de Sagan, il fallait le faire. Ce roman est difficile à lâcher, il est tendu, ludique, on est écrasé par la canicule, subjugué par tout ce qui se joue entre ces géants devant nous, que ce soit Tennessee Williams, Frank Merlo, son amant, Carson McCullers et Sagan. Sagan incroyable de force et de fragilité, de lumière et d'ombre, incroyable de présence et d'absence tout à la fois, Sagan qui fera tourner toutes les têtes, Sagan qui répandra du Sagan partout. Ce roman s'intitule « Jour brûlant à Key West », il est sorti chez Flammarion et c'est un petit bijou vraiment. Cette émission est finie pour aujourd'hui, merci à Bruno de Divergence FM à la réalisation et une nouvelle fois merci à Brigitte Kernel d'avoir accepté mon invitation. Je vous laisse en compagnie de André 3000 qui va se charger en musique de vous la raconter, la canicule, celle si présente dans le roman de Kernel. Allez-vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même place. D'ici là, prenez bien soin de vous.
Times I go back to her and you.